Allez-y.
Pour souligner tout ça, il n'y aurait qu'à d'ailleurs étudier le programme du parti. En particulier, les points 4 et 24, des fameux 25 points, qui sont la base du Parti National Socialiste, proclamé par Adolf Hitler le 24 février 1920, dans l'Hofbauhofestsaal à Munich. Le point 4 ne regarde pas la religion, mais il est intéressant tout de même parce que il est traditionnel. Il dit, pour être membre de l'État, il faut être d'abord membre du peuple. Pour être citoyen de l'État, il faut être membre du peuple. Pour être membre du peuple allemand, il faut être de sang germanique. Et de même pour tous les autres peuples. Pour être membre d'un peuple européen, il faut être arien. C'est pas dit, mais ça veut dire ça. Donc, aucun juif ne peut être citoyen allemand. C'est ça qui a fait que les Juifs étaient contre l'Allemagne. Il ne leur avait absolument rien fait. Ils ne pouvaient pas seulement être employés dans des activités réservées aux Allemands, activités telles que journalistes, médecins, acteurs de cinéma ou de théâtre, etc., etc. Toutes les activités qui influencent les gens, parce qu'ils n'étaient pas considérés comme allemands. Et c'est tout. On ne leur faisait aucun mal. Le deuxième point, c'est le 24. Le 24 est encore plus intéressant. Il dit, le parti s'en tient à un christianisme positif. Qu'est-ce que c'est qu'un christianisme positif? Je crois que ça pourrait se dire en français, ce qu'il y a de positif dans le christianisme, c'est-à-dire les valeurs altruistes, l'entraide, etc. Bien, toutes les œuvres du Parti National Socialiste qui étaient dans ce sens-là, l'entraide aux vieux, l'aide aux vieux, l'aide aux enfants, l'aide aux mères, l'aide divers, etc. Bon, s'en tient donc un christianisme positif. Nous acceptons toutes les religions dans l'État. Toutes les religions à deux conditions. Qu'elles ne soient pas contre l'État et qu'elles ne collident pas, qu'elles ne choquent pas le sens moral de la race germanique ou de la race aryenne. Eh bien, une religion qui permet le mariage entre une aryenne et un nègre, en principe, choque le sens moral de la race aryenne. De la race nègre aussi, d'ailleurs. Alors là, nous sommes d'accord. Le christianisme permet ces mariages-là. L'islam aussi. Toutes les religions internationales d'origine juive. Pas le judaïsme lui-même, évidemment. Le judaïsme est plus intelligent. Il trouve que ces religions-là sont bonnes pour les goïms, mais pour les juifs, non. Les religions internationales avec une racine dans le judaïsme acceptent ces mélanges de races, aussi bien christianisme qu'islam. Donc, elles sont contre le point 24. Logiquement, elles ne devraient pas être permises, ou ne devraient pas être encouragées au moins, dans un État national socialiste. Naturellement, Adolf Hitler ne pouvait pas proclamer ça dans la rue, dans une salle, en 1920, même pas en 1940. Il aurait fallu des années, il aurait fallu plusieurs générations pour que les Allemands s'y habituent et pour qu'on arrive à comprendre cette opposition. Mais on y serait arrivé. Et c'est justement cette opposition qui, selon Matt Cole, le président, enfin le chef du Parti national socialiste américain actuel, c'est cette opposition qui est la chose importante parce que elle exclut les religions internationales de l'avenir. Elle exclut celles qui sont indifférentes à la race parce que centrées sur l'autre monde. Les âmes, pour nous, les âmes ont une race. Mais pour ceux qui ne sont pas racistes, naturellement, les âmes n'en ont point. La preuve, c'est que ceux qui, en Europe, je ne dis pas en Inde, en Europe, croient à la réincarnation. Les théosophes, par exemple, vous disent qu'on pourrait tout aussi bien se réincarner n'importe où. On peut changer de race avec des réincarnations. Eh bien, un hindou ne dirait pas ça. En hindou, je penserais qu'on se réincarne toujours, si on doit se réincarner, soit dans sa famille, soit dans un milieu proche. Enfin, on ne peut pas changer de race. Ou à moins que, avec des siècles d'alourdissement, n'est-ce pas, de son karma, on soit digne d'être rejeté de la transmigration et qu'on soit perdu. Ça, c'est possible. Perdu, je veux dire qu'on redescende jusqu'à ce qu'on se perde dans la matière. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Ben voilà pour les activités avant la guerre et pendant la guerre. Pendant la guerre, mon mari et moi, d'abord nous sommes mariés au début de la guerre, parce que j'aurais été internée si nous n'avions pas été. C'est pour m'empêcher d'être internée qu'il m'a donné son nom. Et puis, il travaillait pour les Japonais déjà avant la guerre. Il dirigeait leur périodique, c'était le périodique allemand. Le périodique japonais s'appelait Eastern Economist, l'économiste oriental, dans lequel j'ai écrit quelques articles aussi. Pendant la guerre, nous avons envoyé des informations, celles que mon mari pouvait trouver, au quartier général japonais du front de Birmanie. Le front de Birmanie s'est formé dès 1941. Le Japon est entré en guerre le 7 décembre 1941 et depuis lors, il a progressé très rapidement jusqu'au milieu de 1942, conquérant la Birmanie, conquérant d'abord Singapour, Kuala Lumpur, ensuite Mandalay, Rangoon, et puis Akiab, Chittagong, enfin la partie qui est limitrophe entre le Bengale oriental et la Birmanie. Et la dernière conquête des Japonais, c'était Imphal en territoire indien. Et nous espérions en 1942 que l'attaque contre la Russie serait victorieuse. Nous espérions que Stalingrad tiendrait, n'est-ce pas, en tant que victoire allemande. Stalingrad tomberait pour bon vue russe, mais comme victoire allemande tiendrait. Et selon De Grelle, Dans le livre de Grell, Hitler pour Milan, il paraît que c'était entièrement la faute à von Paulus, le général qui commandait les 300 000 hommes qui ont péri à Stalingrad. C'est uniquement la faute à von Paulus si Stalingrad est tombé aux mains des Russes. Ça aurait dû être une étape d'avance de l'armée allemande plus à l'est. Et nous croyons que ça allait être ça. Nous nous trompions, malheureusement, mais nous croyons ça. Et je me vois toujours à Calcutta, avec mon mari. Nous dégustions une tasse de café grec et nous parlions. Et il me disait, « Vois, toi tu connais la passe de Khyber, cette magnifique voie des conquérants, une des plus belles voies du monde. Passage à travers des montagnes, complètement dénudées, ocre, rouge, brune, et sous le soleil, sous un ciel très bleu. J'avais été en effet jusqu'à Landikotl, la frontière afghane, en 1936. J'avais visité le nord-est, le nord-ouest de l'Inde. Après Landikotl, il y a la route de Kaboul qui conduit directement en Afghanistan. Mon mari me disait, imagine l'armée allemande dévalant dans cette passe de Khyber. Après avoir conquis, n'est-ce pas, la partie orientale de la Russie, passer le Caucase et contourner la mer Caspienne. Imagine leur chant. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt, wenn denn heute gehört uns Deutschland. Und morgen die ganze Welt. Nous marcherons encore plus loin, même si tout se désagrège et tout tombe en morceaux, en miettes. L'Allemagne nous appartient aujourd'hui, demain le monde entier. Et il me disait, c'est la troisième vague. La première, elle est vieille de 6000 ans. C'était les tribus aryennes qui venaient, mais cette fois-ci du nord. Grand Nord. Puis ça a été l'armée d'Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et puis maintenant. Et j'étais très heureuse. J'attendais ça. J'attendais ça et j'étais tellement persuadée que ça viendrait et que l'armée allemande rencontrerait l'armée japonaise quelque part dans le centre de l'Inde, dans la plaine indo-gangétique, et que Delhi deviendrait un centre d'attraction pour tous les deux. Et là, Delhi, dans ce qu'on appelle le fort rouge, l'ancien fort des grands Moghols, là où était autrefois le trône des Pans, qui est maintenant à Téhéran, parce que en conquérant Persan, l'a emmené en Perse, Nadir Shah l'a emmené en Perse en 1739. Et bien là, à New Delhi, à Delhi, le Führer viendrait. Il serait proclamé Weltführer. Et je m'étais acheté à cette occasion un beau sari de soie marron avec une bande de swastika de croix gammée, de quelques centimètres de large, tout le tour, en haut et en bas. Et je me suis dit, je vais porter ça, s'il vient. Ma belle-mère, qui était une hindoue orthodoxe, évidemment, a vu ce sari, et elle m'a dit, national-socialiste, tu es pour l'Adolf Hitler.
Tu n'as pas honte de porter ça, d'acheter ça. Je dis pourquoi? Mais ça touche les pieds. Quand on porte un sari, la bordure inférieure du sari touche naturellement les pieds quand on marche. Et c'est une chose, c'est comme un sacrilège que la Sainte Croix gammée, le signe du soleil, le signe enfin qui est sacré pour les hindous aussi, signe à rien par excellence, que ce signe vous touche les pieds, c'est un sacrilège. Bien. J'ai gardé le sari naturellement, mais je ne l'ai pas porté. Je n'ai pas eu l'occasion de le porter. Le Führer n'est jamais venu à Delhi. L'armée allemande n'est jamais passée par la passe de Khyber. J'ai emporté le sari avec mes affaires quand je suis allée en Europe. Il m'a été volé avec tout le reste, avec toute une valise, dans lequel j'avais des choses encore bien plus précieuses que ça. J'avais un portrait du Führer, j'avais une traduction française de la Bhagavad Gita qui était très belle, celle de Jeune Burnouf, que je n'ai jamais retrouvée. Et ça m'a été volé en gare Saint-Lazare, le 16 août 1946. Pour souligner tout ça, il n'y aurait qu'à d'ailleurs étudier le programme du parti. En particulier, les points 4 et 24, des fameux 25 points, qui sont la base du Parti National Socialiste, proclamé par Adolf Hitler le 24 février 1920, dans l'Hofbauhofestsaal à Munich. Le point 4 ne regarde pas la religion, mais il est intéressant tout de même parce que il est traditionnel. Il dit: pour être membre de l'État, il faut être d'abord membre du peuple. Pour être citoyen de l'État, il faut être membre du peuple. Pour être membre du peuple allemand, il faut être de sang germanique. Et de même pour tous les autres peuples. Pour être membre d'un peuple européen, il faut être arien. C'est pas dit, mais ça veut dire ça. Donc, aucun juif ne peut être citoyen allemand. C'est ça qui a fait que les juifs étaient contre l'Allemagne. Il ne leur avait absolument rien fait. Ils ne pouvaient pas seulement être employés dans des activités réservées aux Allemands, activités telles que journaliste, médecin, acteur de cinéma ou de théâtre, etc., etc. Toutes les activités qui influencent les gens, parce qu'ils n'étaient pas considérés comme allemands. Et c'est tout. On ne leur faisait aucun mal. Le deuxième point, c'est le 24. Le 24 est encore plus intéressant. Il dit: le parti s'en tient à un christianisme positif. Qu'est-ce que c'est qu'un christianisme positif? Je crois que ça pourrait se dire en français: ce qu'il y a de positif dans le christianisme, c'est-à-dire les valeurs altruistes, l'entraide, etc. Bien, toutes les œuvres du Parti National Socialiste qui étaient dans ce sens-là. L'entraide aux vieux, l'aide aux vieux, l'aide aux enfants, l'aide aux mères, l'aide divers, etc. Bon. S'en tient donc à un christianisme positif. Nous acceptons toutes les religions dans l'État. Toutes les religions, à deux conditions. Qu'elles ne soient pas contre l'État et qu'elles ne collident pas, qu'elles ne choquent pas le sens moral de la race germanique ou de la race aryenne. Eh bien, une religion qui permet le mariage entre une aryenne et un nègre, en principe, choque le sens moral de la race aryenne, de la race nègre aussi d'ailleurs. Alors là, nous sommes d'accord. Le christianisme permet ces mariages-là, l'islam aussi. Toutes les religions internationales d'origine juive, pas le judaïsme lui-même évidemment, le judaïsme est plus intelligent. Il trouve que ces religions-là sont bonnes pour les goïms, mais pour les juifs, non. Les religions internationales avec une racine dans le judaïsme acceptent ces mélanges de races, aussi bien christianisme qu'islam. Donc, elles sont contre le point 24. Logiquement, elles ne devraient pas être permises ou ne devraient pas être encouragées, au moins, dans un État national-socialiste. Naturellement, Adolf Hitler ne pouvait pas proclamer ça dans la rue, dans une salle, en 1920, même pas en 1940. Il aurait fallu des années. Il aurait fallu plusieurs générations pour que les Allemands s'y habituent et pour qu'on arrive à comprendre cette opposition. Mais on y serait arrivé. Et c'est justement cette opposition qui, selon Matt Cole, le président, enfin le chef du Parti national-socialiste américain actuel, c'est cette opposition qui est la chose importante parce que elle exclut les religions internationales de l'avenir. Elle exclut celles qui sont indifférentes à la race parce que centrées sur l'autre monde. Les âmes, pour nous, les âmes ont une race. Mais pour ceux qui ne sont pas racistes, naturellement, les âmes n'en ont point. La preuve, c'est que ceux qui, en Europe, je ne dis pas en Inde, en Europe, croient à la réincarnation, les théosophes, par exemple, vous disent qu'on pourrait tout aussi bien se réincarner n'importe où. On peut changer de race avec des réincarnations. Eh bien, un hindou ne dirait pas ça. En hindou, je penserais qu'on se réincarne toujours, si on doit se réincarner, soit dans sa famille, soit dans un milieu proche. Enfin, on ne peut pas changer de race. Ou à moins que, avec des siècles d'alourdissement, n'est-ce pas, de son karma, on soit digne d'être rejeté de la transmigration et qu'on soit perdu. Ça, c'est possible. Perdu, je veux dire qu'on redescende jusqu'à ce qu'on se perde dans la matière. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Ben, voilà pour les activités avant la guerre et pendant la guerre. Pendant la guerre, mon mari et moi, d'abord nous sommes mariés. Au début de la guerre, parce que j'aurais été internée si nous n'avions pas été. C'est pour m'empêcher d'être internée qu'il m'a donné son nom. Et puis, il travaillait pour les Japonais déjà avant la guerre. Il dirigeait leur périodique, c'était le périodique allemand. Le périodique japonais s'appelait Eastern Economist, l'économiste oriental, dans lequel j'ai écrit quelques articles aussi.